Le titre de mon message aujourd'hui,
les trois grandes consolations.
Nous allons tourner ensemble dans Proverbe, chapitre 22, le verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Dieu nous fait passer dans un développement, il nous fait maturer dans notre vie. Et il y a un temps où Dieu nous apprend son intelligence, sa sagesse, sa crainte de l'Éternel, parce qu'il veut pouvoir nous bénir. Dans Proverbes chapitre 3, verset 13 à 21, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Exactement les mêmes choses qu'on a lues tantôt. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Les trois bénédictions, les trois consolations divines qui viennent au travers de la sagesse, au travers de la crainte de l'Éternel. Verset 17 du même chapitre, « Ses voies sont des voies agréables, tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. » Les sentiers de la vie, les sentiers par lesquels la sagesse de Dieu nous entraîne pour nous faire grandir en sagesse, nous faire grandir en connaissance, nous faire grandir en grâce, sont des sentiers de bénédiction. Dieu désire nous remplir de ses consolations, mais pour ce faire, il est obligé de nous éduquer, comme ses fils. Pour nous apprendre la vraie justice, nous apprendre sa manière à lui de faire les choses, nous n'avons pas le choix. Il nous faut recevoir de lui cette grande grâce qu'on appelle l'humilité. L'humilité qui n'est pas quelque chose de naturel, l'humilité qui n'est pas une capacité humaine ordinaire. Personne ne peut se vanter d'être naturellement humble. On ne naît pas humble. L'humilité est une grâce de Dieu, que Dieu accorde à ceux qui l'aiment, à ceux qui marchent proches de lui. Psaume 119, versets 66 à 72, « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Enseigne-moi. » C'est David qui prie à Dieu cette prière. « Enseigne-moi. » Il y a un apprentissage, il y a une éducation. Verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Avant d'avoir été humilié, l'humilité ne vient que par l'épreuve. C'est une grâce qui vient de Dieu, mais que Dieu nous accorde au travers de l'épreuve, car c'est seulement l'épreuve qui produit en nous cette humilité. Verset 68, « Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés, moi je garde tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » C'était ce que David avait appris tout au long de sa vie. La vie de David avait été chargée d'épreuves. Tout au cours de sa vie, il y avait eu des détresses, des situations difficiles. Et David avait appris cette grâce de Dieu, cette humilité, qui faisait que Dieu trouvait en David faveur, qui faisait que Dieu pouvait bénir la vie de David, que la faveur de Dieu était sur la vie de David. Moïse nous dit la même chose en Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Nous allons lire Deutéronome, chapitre 8, les versets 2 et 3 avant. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Remarquez le mot employé par Moïse, afin de t'apprendre. Il parle d'un apprentissage qui s'est fait au travers du désert, à travers des épreuves, des souffrances qui ont été rencontrées dans les déserts pour humilier le peuple d'Israël. Dieu ne fait pas cela de manière exprès. Dieu ne prend pas plaisir à nous humilier. Mais il est obligé de le faire pour nous apprendre sa nature à lui. Pour nous apprendre comment lui, il fonctionne. Et on va lire à partir du verset 12. « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. C'est comme si Dieu ne pouvait pas faire le bien avant d'avoir premièrement mis l'humilité dans le cœur de son peuple. Pour bénir son peuple, Dieu devait d'abord le bénir avec la grâce de l'humilité. L'humilité est la condition primordiale pour recevoir les bénédictions de Dieu, pour recevoir sa pleine consolation. Mais l'humilité ne s'acquiert qu'au travers des épreuves. C'est le chemin de Dieu, on ne peut pas s'y soustraire. Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons ressembler à Jésus, si nous voulons suivre sa voie, si nous voulons grandir en sagesse, nous sommes obligés de passer par le même chemin que Jésus lui-même a suivi. Jésus a suivi ce chemin-là. Il était un homme de douleur, un homme de souffrance, habitué à la souffrance. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lui aussi, il a appris l'humilité. Et nous devons suivre le même chemin que le Maître a suivi. Verset 17. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous le déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'avez pas suivi dans ce chemin, vous n'avez pas gardé sa voix, vous n'avez pas gardé l'humilité. Vous avez laissé votre cœur s'enfler. Vous avez oublié que tout ce que vous recevez provient de l'Éternel, que tout est pure grâce devant Dieu. Rien ne vient de nous-mêmes. Rien ne vient de notre propre force. Rien ne vient de notre propre puissance. Et c'est l'épreuve qui nous fait prendre conscience que tout nous vient de Dieu. Parce que naturellement, on se croit fort. Quand on est jeune, on est fringant, on est plein de force, on se croit sage. Et là, on pense qu'on va réussir par nous-mêmes. Et ça nous prend du temps avant de prendre conscience que tout nous vient de Dieu. Que la sagesse nous vient de Dieu. Que la force nous vient de Dieu. Que la richesse nous vient de Dieu. Tout savoir-faire nous vient de Dieu. Nous n'avons pas le choix. Nous devons passer par cet apprentissage, par ce chemin, cette éducation, la grâce de tout ce que Christ a accompli à la croix, tout ce que Jésus, toutes les bénédictions, la guérison, la santé, l'asservissement, la délivrance du malin, la délivrance de la pauvreté, toutes ces bénédictions qui ont été acquises à la croix de Golgotha par Jésus-Christ, cette grâce de Christ, ne peut venir que sur nous qu'au travers de l'humilité. Dieu accorde ses grâces aux humbles. La grâce de Christ ne se manifeste que par l'humilité. Nous n'avons pas le choix. Même si nous savons, nous connaissons tout l'héritage que Christ a acquis pour nous, même si nous savons que par ses meurtrissures nous sommes guéris, cette guérison ne pourra opérer dans notre vie que si nous apprenons d'abord l'humilité. Nous devons passer par ce chemin. Il n'y a pas d'autre chemin que cela pour obtenir sa grâce. Toute bénédiction de Dieu vient au travers de l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Paul l'apôtre lui-même, toute sa vie, a dû retenir cette leçon importante. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul, même s'il était chrétien depuis des années, un apôtre, était un grand serviteur de Dieu, était incapable de garder cette humilité-là par lui-même. C'est pas en lui qu'il pouvait garder cette humilité. Ça venait pas de lui, ça venait de Dieu. C'était une grâce de Dieu que Dieu lui accordait au travers des situations de faiblesse, au travers des calamités, des persécutions, des détresses pour Christ. L'apôtre Paul avait appris lorsqu'il était affligé que les consolations de Dieu pouvaient abonder. Paul avait appris. Il le dit au début de 2 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Une consolation ne vient que lorsqu'il y a une affliction. Pour avoir une consolation, il faut avoir une affliction. Le Saint-Esprit est celui qui nous console. Il est appelé le Consolateur. Mais pour manifester sa consolation, sa grâce, il est premièrement obligé de nous apprendre l'humilité, de nous faire suivre ce long chemin de détresse, d'affliction, d'épreuve, pour nous enseigner que toute chose nous vient de Dieu. Rien ne vient de nous-mêmes, rien ne vient de notre propre sagesse. Dieu ne nous répond pas à nos prières à cause de notre grande justice, de notre propre justice. Non, Dieu agit à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et il agit pour ceux qui marche dans l'humilité. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Verset 5 du même chapitre. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. De même que les souffrances de Christ abondent, de même notre consolation abonde par Christ. Vous voulez que la consolation de Christ abonde dans votre vie? Que sa bénédiction, que sa gloire abonde dans votre vie? Alors soyez sûr que les souffrances de Christ vont aussi abonder. C'est le chemin que Jésus a suivi, c'est le chemin que les apôtres ont suivi, c'est le même chemin que nous devons suivre. Nous devons marcher dans les traces de Christ. L'apôtre Pierre nous dit bien que Jésus-Christ a souffert à la croix pour nous laisser un exemple. Il n'a pas seulement souffert à la croix pour nous assurer le salut, nous assurer des bénédictions, nous assurer sa grâce ou nous délivrer de la condamnation de l'ennemi. Il a aussi souffert à la croix pour nous laisser un exemple. Parce que nous devons nous aussi porter notre croix à sa suite. Verset 6. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes épreuves, les mêmes souffrances que nous endurons. Remarquez, votre consolation, c'est-à-dire quand Dieu va vous consoler, Comment que cette consolation va se réaliser? L'apôtre Paul le spécifie. Cette consolation va se réaliser par la patience à supporter les mêmes souffrances. Autrement dit, quand Dieu vous aura rendu patient pour supporter les mêmes souffrances que lui endurait, que lui, l'apôtre Paul, endurait. Autrement dit, nous n'avons pas le choix de devenir patients, humbles, rendus humbles et patients pour supporter les mêmes souffrances que Paul endurait, que Pierre endurait, que tous les disciples de Jésus endurait, que Jésus lui-même endurait. C'est comme ça que notre consolation va abonder. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas de chemin plus court. Il n'y a pas de chemin de raccourci. C'est le chemin de la gloire. Nous voulons goûter aux fruits de la richesse, de la gloire et de la vie, qui sont les trois grandes consolations de Dieu pour nous. Bien, il nous faut passer au travers du chemin de l'humilité, de la patience à toute épreuve. Il nous faut passer au travers de ce chemin de la crainte de l'Éternel. Au verset 7, l'apôtre Paul continue. « Et notre espérance à votre égard est ferme. » Notre espérance à votre égard est ferme. « Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. » Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Le secret de l'humilité, c'est de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, dans notre force, dans notre sagesse, en nous-mêmes pour résoudre notre problème, en nous-mêmes pour se diriger, en nous-mêmes pour chercher un avenir. Non, de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Même si nous mourons, Paul dit, je placerai encore ma confiance en Dieu. Je regardais comme certain notre arrêt de mort. Autrement dit, il n'y a plus de vie. C'est la mort qui agit en moi. Comme il va dire plus loin, la mort agit en moi. J'ai emmené mon âme à la mort afin que la vie de Christ se manifeste. Je ne cherche plus à chercher à emmener la vie par moi-même. Au contraire, je demeure dans un état de mort, dans un état de faiblesse, afin que la vie de Christ se manifeste. Et au verset 10, il dit, « C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera encore d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. » Dieu est fidèle. Dieu ne permet pas l'épreuve pour nous faire mourir dans cette épreuve-là. Toujours quand l'épreuve est là, c'est pour nous faire grandir, pour nous faire sortir vainqueurs, pour nous amener d'abord la grâce de l'humilité, et quand cette grâce-là vient dans notre vie avec la crainte de l'Éternel, alors Dieu peut nous délivrer. Dieu peut nous donner un char de consolation. Dieu peut nous remplir de ses consolations. Dieu peut nous bénir à partir de ce moment-là. Parce que la parole dit aussi, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Proverbes chapitre 9. Le verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. À partir du moment que tu crains l'Éternel, tu ne fais que commencer à être sage. L'humilité est à la base de la crainte de l'Éternel. L'humilité est une grâce de Dieu, c'est pas quelque chose qui vient en nous-mêmes, c'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes, c'est pas quelque chose que l'on forge à force d'efforts humains, c'est une grâce de Dieu. Et la crainte de l'Éternel est de même une grâce de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une crainte humaine de Dieu. Parce que Dieu va me frapper, je vais lui obéir. Ça, c'est la crainte humaine. Comme un enfant que tu frappes, puis que tu dis, ne fais plus cela, l'enfant va cesser de faire ça parce qu'il a peur de la verge. Il a peur de la correction. Ça, c'est une crainte naturelle. Mais ce n'est pas de cela que cela parle ici. Cela parle d'une grâce surnaturelle de Dieu qui vient sur ceux qui marchent dans l'humilité. Cette crainte de l'Éternel, c'est de respecter l'Esprit Saint, l'Esprit de grâce qui est sur nous, qui est venu au travers de l'humilité, respecter cet Esprit de grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, l'Esprit de grâce qui nous enseigne à marcher dans le même chemin que Jésus a marché. L'Esprit de grâce qui nous enseigne à porter notre croix à la suite de Jésus. C'est ça la crainte de l'Éternel, c'est respecter cet Esprit de grâce qui est si amour, qui est si patient, qui nous éduque avec une patience de mère, qui nous console avec une patience de mère, qui est là pour notre instruction, nous assagir, nous faire grandir en sagesse, en intelligence, en connaissance, en crainte de l'Éternel. Cette sagesse divine qui vient du Saint-Esprit va nous faire pénétrer dans les sentiers de la sagesse, qui est le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand tu commences à respecter sa grâce, que tu n'abuses plus de cette grâce-là. Beaucoup de chrétiens abusent de la grâce de Dieu. Ils pensent que cette grâce est une permission de faire n'importe quoi. Ça, c'est un abus. C'est un outrage à la grâce de Dieu. La crainte de l'Éternel va nous enseigner par le Saint-Esprit à respecter cette grâce qui est douce mais qui est puissante, qui peut nous entraîner à la suite de Jésus, qui veut nous entraîner à la suite de Jésus, à marcher dans le même chemin que Jésus a marché. Cette crainte de l'Éternel va nous emmener non seulement à renoncer au mal, oui, il y a ça, Proverbes chapitre 8, verset 13, ça nous dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ça, c'est la base. Haïr le mal. C'est-à-dire l'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Le contraire de l'humilité, c'est la voie du mal. Qui ne marche pas dans l'humilité ne peut pas marcher dans la crainte de l'Éternel. Parce que l'orgueil, c'est la voie du mal. Quelqu'un a beau faire toutes les choses bonnes et justes comme les pharisiens de l'époque de Jésus qui jeûnaient, qui priaient, qui donnait, qui faisait toutes sortes de bonnes choses à l'extérieur, qui avait une bonne religion, mais l'orgueil qui animait leur cœur faisait qu'ils ne pouvaient pas parvenir au royaume de Dieu. Ils ne pouvaient pas entrer dans le royaume de Dieu. L'orgueil les aveuglait. C'était la voie du mal. Malgré toute leur religiosité, malgré toute leur propre justice, ils priaient, ils jeûnaient deux fois par semaine. Malgré tout cela, leur orgueil les empêchait de goûter le royaume de Dieu. Leur orgueil les empêchait d'aller s'humilier devant Jean-Baptiste et leur orgueil les empêchait de reconnaître en Jésus-Christ le Messie. Ça, c'est l'orgueil qui fait cela. Mais la crainte de l'Éternel, qui est basée sur l'humilité, nous entraîne dans le chemin contraire. La crainte de l'Éternel nous entraîne non seulement à dire non au mal, mais la crainte de l'Éternel nous entraîne beaucoup plus loin. À dire non aussi à nos droits légitimes, à nous-mêmes. C'est ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas seulement dit non au mal, mais il a dit non à tous ses droits légitimes qu'il avait. Jésus avait le droit d'avoir lui aussi une femme et des enfants. Jésus avait le droit d'avoir lui aussi une maison et des biens. Jésus avait le droit, lui aussi, d'avoir une carrière. Il a renoncé volontairement à lui-même, à toutes ces choses qui étaient de lui-même, qui n'étaient pas mal. Ce n'est pas mal d'avoir une femme et des enfants. Ce n'est pas mal d'avoir une maison, d'avoir des richesses. Ce n'est pas mal d'avoir une carrière. Mais il a renoncé volontairement. Pourquoi? Par amour pour nous. Tout ce qu'il voyait, c'était l'amour pour nous. Jésus est allé à la croix par amour pour nous, parce qu'il savait que nous périssions sans lui. Il savait que notre destin, c'était la mort éternelle, que nous avions péché et que le châtiment qui nous attendait était la condamnation éternelle, la honte éternelle. Il est venu pour prendre sur lui-même la responsabilité de nos fautes, souffrir à notre place, il s'est chargé de nos souffrances, il s'est chargé de notre douleur, il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de notre mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il est mort à notre place. Par amour, toute sa vie a été une mort à lui-même. Durant toute sa vie, il a renoncé à lui-même. Et la croix a été le summum, là où il a complètement livré même son corps et sa vie. Par amour, pour payer à notre place le châtiment que nous méritions, nous. Ça, c'est le renoncement à lui-même que Jésus a fait. C'est cette crainte de l'Éternel qui l'amenait à suivre la grâce de Dieu, la grâce de Dieu qui était amour, qui était l'amour parfait qui se donne, l'amour parfait qui conduit au renoncement à soi-même, à même dire non à nos droits légitimes. Nous avons des droits ici-bas. Nous devons y renoncer par amour pour Dieu, par amour pour les autres, comme Christ a fait. Philippiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 8. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, » rappelez-vous les versets de tout à l'heure, « s'il y a quelque consolation, c'est parce que les Philippiens avaient part aussi aux souffrances de Christ. » Parce qu'il n'y a pas de consolation sans souffrance. Sans avoir part aux souffrances de Christ, il n'y a pas de consolation sans humilité. Si donc il y a quelque consolation, quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, et s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, ses propres droits, j'ai mes droits, je revendique mes droits. C'est quoi l'humilité va nous entraîner à faire? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pourquoi cela? Parce que c'est le chemin que Jésus-Christ a suivi. Verset 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé du moi. Il s'est dépouillé de tout droit légitime personnel par simple et pur amour, en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'était son amour. C'était simplement l'amour, et seulement l'amour, qui dirigeait Jésus à s'oublier lui-même, à se dépouiller de lui-même, à marcher jusqu'à la mort de la croix. C'est le chemin que la grâce de Dieu veut nous entraîner à suivre. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ces sentiments-là, humilité, crainte de l'Éternel, ont pour fruit la richesse, la gloire et la vie. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dieu a consolé Jésus-Christ d'une manière parfaite, parce que Jésus-Christ a marché d'une manière parfaite dans le renoncement à lui-même. Et cela, c'est seulement la grâce de Dieu agissant en nous, l'action du Saint-Esprit, qui peut nous transformer à l'image de Christ, au travers des épreuves, des situations difficiles, des situations de faiblesse qui arrivent. Toutes choses concourent à notre bien. L'apôtre Paul va dire, toutes choses. L'apôtre Pierre va dire, que personne ne souffre comme malfaiteur, comme s'ingérant des affaires d'autrui, comme ayant péché. La grâce de Dieu qui est sur nous, non seulement va nous éloigner du péché, ça c'est juste le début. L'apôtre Pierre va dire, si quelqu'un souffre pour Christ, qu'il n'en ait point honte. Dieu nous appelle à souffrir, non plus à cause de nos péchés, parce qu'on a péché, puis là on mérite un châtiment, mais il nous appelle à souffrir par simple et pur amour, à souffrir à la suite de Christ. Parce que le royaume de Dieu est en train d'être enfanté, et comme une famille qui naît, il y a des souffrances d'enfantement. Christ a souffert pour enfanter son royaume, pour nous enfanter nous. Il a souffert comme les souffrances de l'enfantement pour nous enfanter, nous. Ça lui a coûté beaucoup. En termes de dépouillement de lui-même, de renoncement à lui-même. Comme des parents, pour élever des enfants, sont obligés de renoncer à plusieurs choses par amour pour leurs enfants. dès que l'enfant naît jusqu'à ce qu'il devienne adulte et qu'il se marie, il y a toute une série de renoncements que des parents doivent faire par amour pour leurs enfants. Élever des enfants, ça entraîne une souffrance. C'est une souffrance d'amour. C'est pas quelque chose qu'on fait de façon négative. On le fait de façon positive. C'est une souffrance positive. Une souffrance d'amour, sachant que la récompense est glorieuse. Sachant que ce qu'il y a devant nous, c'est la richesse, la gloire et la vie. L'apôtre Paul va dire, c'est rien, les souffrances. Regardez, c'est peu de choses, les souffrances, par rapport à la gloire qui va se manifester en Christ. C'est bien peu. Nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 17. Nos légères afflictions. L'apôtre Paul va parler de ses souffrances comme des légères afflictions, parce que quand tu aimes, quand tu le fais par amour, la souffrance paraît légère. Elle devient légère. Parce que tu aimes tellement, tu vois tellement le but, tu aimes tellement la personne qui est devant toi, que tu es prêt à souffrir pour cette personne-là. Tu es prêt à prendre sa place. T'aimes mieux te voir souffrir toi que de voir souffrir la personne que tu aimes. Nos légères afflictions du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il ne faut pas regarder aux choses visibles, au domaine naturel des choses, à notre souffrance naturelle. Ce n'est pas à cela qu'il faut fixer nos regards. Si on fixe nos regards sur la souffrance, « Ah, c'est terrible, c'est terrible !» C'est certain que nous n'irons pas loin. Il faut fixer nos regards sur Christ, sur sa promesse, sur ce que lui-même a vécu et ce qu'il nous appelle à vivre avec lui, parce qu'il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. C'est le chemin qu'il a tracé devant nous. Colossiens chapitre 1, le verset 6, ça dit « Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits. » Et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. La grâce de Dieu s'est manifestée, a manifesté le salut de Dieu, le salut de Christ. Cette grâce va en grandissant, le royaume de Dieu s'accroît, et parce qu'il s'agrandit, il cause des souffrances. Il y a des souffrances d'enfantement. Il y a des souffrances d'éducation. Des souffrances de pourvoir aux enfants spirituels. Comme l'apôtre Paul le disait, il y a des souffrances. Mais c'est rien comparé aux consolations qui viennent et qui sont là en abondance dans notre vie. Parce que oui, l'apôtre Paul avait à passer au travers des souffrances, mais au travers des souffrances qu'il vivait, il y avait toujours de nombreuses consolations. Paul voyait des gens venir à Jésus, des gens donner leur vie, se détourner de l'idolâtrie, des pièges du diable. Il voyait la puissance de Dieu se manifester au travers de lui. Il voyait les guérisons, les signes, les prodiges, les miracles s'accomplir pour manifester la grâce de Dieu. Alors cela le consolait son cœur, de voir que toute sa peine et toute sa souffrance n'étaient pas en vain. Cela permettait au royaume de Dieu de s'agrandir. C'est pour cela qu'il dit « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. » Il savait qu'il devait passer constamment par cet état d'humilité et de crainte de l'Éternel, de renoncement à lui-même, de faiblesse, pour que la puissance de Dieu, les consolations puissantes de Dieu, abondent et surabondent. C'est le même appel que Dieu trace sur notre vie. Richesse, gloire et vie. Les consolations qui viennent au travers du Saint-Esprit, qui viennent au travers de l'humilité et de la crainte de l'Éternel. N'ayons point de crainte de suivre ce chemin tracé-là, car l'Éternel est avec nous. Le Saint-Esprit lui-même marche avec nous. Il est notre consolateur. Il est avec nous. Il nous aime d'une patience de mère. Il prend soin de chaque détail de notre vie et il nous parfait à la ressemblance de Jésus-Christ. Il poursuit notre éducation avec patience et nous reprend. Combien de fois il est obligé souvent de nous rappeler les mêmes choses? Mais il est patient. Il est amour. C'est-à-dire dans les proverbes qu'il joue avec les fils de l'homme. Parce qu'il trouve son plaisir. Quand quelqu'un marche dans l'humilité et la crainte de l'Éternel, cela réjouit son cœur. Et cela le console de toutes les souffrances que lui-même supporte. Parce que le Saint-Esprit souvent est attristé de l'état, de la condition de l'humanité aujourd'hui, de la condition de l'Église aujourd'hui. Il souffre, il est attristé. Mais il persévère envers ceux qui le craignent. Il persévère envers ceux qui s'humilient. Dieu a encore un reste qu'il veut bénir. Ce reste produit une grande consolation dans le cœur de Dieu et pour nous-mêmes aussi. Ce reste qui marche dans l'humilité et dans la crainte de l'Éternel est une cause de consolation pour les siens, pour le peuple de Dieu. Ézéchiel chapitre 14, on peut lire à partir du verset 21. On va finir avec ce verset-là. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je vais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel se plaignait qu'il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de juste, il n'y avait plus personne qui craignait Dieu, que Dieu corrigeait Israël en détruisant tout. Il a complètement détruit la ville de fond en comble. Tous les Juifs ont parti en déportation. Mais Dieu disait à Ézéchiel, même si je fais ça, même si je châtie la terre entière, il y aura un reste. Il y a un reste qui va continuer à me craindre, qui va continuer à marcher dans mes voies. Le reste au cœur brisé, qui se détourne du mal et qui se détourne même de lui-même pour me suivre. Et ce reste va être un sujet de consolation pour toi, pour les serviteurs de Dieu, pour Dieu lui-même, pour le Saint-Esprit, pour nous. Quand nous voyons d'autres enfants de Dieu qui marchent dans l'humilité, qui marchent dans la crainte de Dieu, cela réjouit notre cœur. L'apôtre Jean disait, « Je n'ai pas de plus grande joie que de voir mes enfants marcher dans la vérité. » Cela réjouit notre cœur. Cela est pour nous une grande consolation. Dieu va protéger les siens. Dieu va manifester sa consolation pour les siens. Il va les protéger comme la prunelle de son œil. Même s'ils ont à passer beaucoup d'épreuves, de souffrances, de tribulations, Dieu va retirer son reste du milieu de cette terre qui s'apprête à corriger, à châtier. Nous ne sommes pas destinés à la colère, nous sommes destinés au salut, dira l'apôtre Paul. Même si la colère vient sur les nations autour de nous, même si on sait que le jour de la colère est proche, à cause de toutes les méchancetés et les abominations qui s'y commettent, nous savons que Dieu aussi a un reste qu'il va épargner. Un reste qui marche humblement avec lui, qui ne marche pas dans le moi, dans ma carrière, l'édification de moi, mes droits, le Jésus et moi, comme j'ai dit déjà. Non, le reste qui marche dans le renoncement à lui-même, qui marche dans l'humilité et la crainte de l'Éternel. Ce reste va être béni, va être consolé. Ce reste va être enlevé dans la présence du Seigneur lui-même, va être transformé à son image. Que Dieu vous console, que son esprit, sa grâce soit sur vous. Amen.